Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 28, Daf Kafhet. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu dans le shiur précédent que des proches parents ne peuvent témoigner l'un pour l'autre ou l'un contre l'autre. Et cela, nous l'apprenons du verset Lo yumtu avot al banim. Alors maintenant, la Gemara veut savoir qu'est-ce que nous apprenons exactement de ces versets. Alors la Gemara nous dit Ashkechan avot le banim ou banim l'avot. Nous trouvons dans ce verset que les parents ne peuvent témoigner pour des enfants et les enfants pour les parents. Et donc, dans cet interdit, ça inclut d'un fils de témoigner pour son père ou pour le frère de son père, car avot, les parents, ça fait allusion à deux personnes. Or, si l'interdit était seulement pour le fils envers son père, on aurait dû dire lo yumat aval ben, un père ne mourra pas par son fils. Si nous avons dit avot, nous parlons ici de deux parents par deux fils. Donc de là, nous apprenons que un enfant n'a pas le droit de témoigner pour son père ou pour le frère de son père. Et de même, les parents ne peuvent témoigner pour les enfants ou pour les enfants de leurs frères. Vekol sheken avot lehadadeh, à plus forte raison, les parents, c'est-à-dire deux frères, un pour l'autre ou un contre l'autre, c'est interdit. Maintenant, la Gemara demande banim le banim minalan, d'où je sais que même les enfants pour les enfants, c'est interdit, c'est-à-dire les enfants pour leurs cousins, car ici nous avons dit que les enfants, ce sont les enfants des parents. Or, les parents, nous avons dit, ce sont deux frères. Donc, les enfants de deux frères sont des cousins. D'où je sais que des cousins aussi, ils sont appelés proches de famille et c'est invalide. Alors, la Gemara nous dit, si l'interdit avait été que des enfants envers les parents et des parents envers les enfants ou leurs neveux, alors on aurait dû dire, le verset aurait dû dire que les parents ne mourront pas par le fils. Maïbanim, pourquoi vont-nous parler des fils au pluriel? De afilu banim lehadade, que même les fils entre eux ne peuvent témoigner l'un pour l'autre. La Gemara nous dit Ashkechan banim lehadade, banim lealma minan. Alors, c'est vrai, de ce verset nous prouvons que les cousins entre eux, c'est-à-dire ils sont considérés les fils. Donc, les fils de deux frères sont des cousins entre eux, c'est invalide. Mais d'où je sais que des cousins qui veulent témoigner ensemble sur quelqu'un d'autre, que c'est aussi invalide. Rami Bahama Svaraou, Rami Bahama dit, c'est un raisonnement. Kedetania, comme ce que nous avons enseigné. En aedim neesim zomemim, achi ezomushneem. Que des témoins ne sont prouvés comme étant zomemim et sont passibles d'une punition de témoins zomemim, c'est-à-dire de témoins mensongers. Seulement, si on fera la hazama, on prouvera que ce sont des menteurs, les deux témoins. Veis al-kada atach banim la'almak sherim. Or, si tu penses me dire que les enfants, c'est-à-dire les cousins, sont valides, deux cousins sont valides pour témoigner pour le reste du monde, il se trouve alors qu'un témoin mensonger est tué par le témoignage de son frère. Comment cela? Si deux cousins viennent témoigner que monsieur un tel a tué, et après on arrive à prouver que ces deux témoins sont des menteurs, alors à ce moment-là, on leur donnera la punition qu'ils ont voulu donner à l'accusé, c'est-à-dire une peine de mort. Or, étant donné que la loi nous dit que l'on ne peut leur donner la punition tant que on n'a pas prouvé que les deux sont des menteurs, alors on sera obligé de prouver que les deux sont des menteurs. Et donc, en fait, maintenant, on donnera la punition de peine de mort au premier témoin, parce que son cousin qui a témoigné avec lui a aussi menti. Et donc, maintenant, il se trouvera que le premier cousin est tué à cause du second cousin. Et donc, c'est comme s'il témoignait l'un contre l'autre. Amar le Rav, alors Rav Lodel lui a dit, Ultaimir, mais d'après ton raisonnement, Hadidnan, ce que nous avons enseigné à propos de Chazaka, Chazaka, c'est lorsqu'un homme a acheté une maison ou un champ, et qu'il n'a pas le contrat d'achat, parce qu'il a perdu, alors il peut prouver d'une autre façon que ce champ lui appartient, en prouvant qu'il a vécu dans ce champ, dans cette maison, durant 3 ans, et que le propriétaire de ce champ ne lui a rien dit durant ces 3 ans. C'est-à-dire l'ancien, le premier propriétaire. Et lui dit donc, je l'ai acheté, la preuve est que je l'ai acheté, c'est que durant 3 ans j'ai vécu dans cet endroit et que le premier propriétaire qui dit maintenant que c'est à lui, ne m'a jamais rien dit durant ces 3 ans. Maintenant, nous avons enseigné à propos de Chazaka. Shlosha Achim, 3 frères, Ve'echad, et une personne de l'extérieur, Mitzaref Imaem, pourra s'associer avec ces 3 frères. C'est-à-dire le premier frère plus la personne d'extérieur témoignera sur la première année, le second frère plus celui de l'extérieur témoignera sur la seconde année, et le troisième frère plus celui de l'extérieur témoignera sur la troisième année. Alors, c'est trois témoignages différents, et cela est valide, et donc on donnera la terre à celui qui a vécu durant ces trois ans. Relo, Shalosh et Douyot, ce sont trois témoignages différents, et donc nous ne disons pas que les frères ont témoigné ensemble. Ve'en edut echad l'azama, mais c'est considéré comme étant un seul témoignage à propos de l'azama. C'est-à-dire, si on veut prouver que ces témoins sont mensongers et leur donner la punition des témoins mensongers, il faudra prouver sur les trois groupes de témoins, c'est-à-dire sur les quatre personnes, que ce sont des menteurs. Car si le premier groupe était venu témoigner sans que le second et le troisième viennent témoigner, ça n'aurait rien fait. Car témoigner qu'une personne a vécu un an dans ce champ, ça ne sert à rien. Il faut témoigner qu'il a vécu trois ans. Donc en fait, chaque groupe, c'est un témoignage à part, mais les trois témoignages s'associent pour donner une décision qui dit que le champ reste dans celui qui est entre les mains de celui qui a vécu durant les trois dernières années. Et étant donné que les trois témoignages s'associent pour cette décision, si on veut donner la punition de Edzomem, il faudra prouver sur les trois témoignages que ce sont des menteurs. Or, suivant le raisonnement de Rami Bachama, Nimtsa Edzomem, Meshalem, Mamon, Be'edutachiv, si on arrive à prouver que ces quatre témoins, c'est-à-dire les trois frères plus le quatrième, sont des menteurs, alors il se trouvera que un témoin mensonger paiera de l'argent à cause du témoignage de son frère, c'est-à-dire le premier frère paiera de l'argent, car on a prouvé que c'était un menteur, à cause du témoignage de son grand frère. Et donc c'est considéré qu'un frère fait payer un autre, chose qui n'est pas possible. Et là, alors que sommes-nous obligés de dire, Hazama me'alma akarate, que le fait de prouver que des témoins sont des mensongers, ce sont deux autres témoins qui viennent le prouver, et nous ne disons pas que c'est de la faute des témoins qui ont menti. Mais ça s'appelle que ce sont deux autres témoins qui viennent témoigner sur ces premiers témoins menteurs. Hanami, alors ici aussi, à propos de deux cousins qui ont témoigné sur une personne qui a tué, Hazama me'almakate, nous sommes obligés de dire que la preuve que ce sont des menteurs vient de l'extérieur, et ça ne s'appelle pas qu'ils témoignent l'un contre l'autre et qu'ils sont punis l'un à cause de l'autre. Et donc à nouveau revient la question, d'où je sais que deux cousins ne peuvent témoigner pour le reste du monde. Alors comment nous dit l'Ainken, Irtovkra ou Ben Alavot. Si ça avait été ainsi que des cousins peuvent témoigner pour le reste du monde, mais ils ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre, alors ou Ben Alavot, on aurait dû écrire dans le verset, et un fils pour les parents. Et à ce moment-là, j'aurais su que le fils est invalide pour les parents, c'est-à-dire pour son père et pour son oncle. Et de même qu'il est invalide pour son oncle, il est invalide pour son cousin. Pourquoi avons-nous besoin de dire au pluriel « Ubanim » et les enfants? De là, nous apprenons qu'ils sont invalides même pour le reste du monde. Inami, ou alors, une autre possibilité, « Hem alavot », on aurait pu dire « eux-mêmes pour leurs parents ». Mai Ubanim, pourquoi avons-nous eu besoin de préciser dans le verset « et les enfants » Ça nous apprend à « filo banim la alma » que même les enfants, c'est-à-dire les cousins, pour le reste du monde, ne peuvent s'associer pour témoigner. La Gemara nous dit maintenant, Ashkechan Kroveav, nous avons réussi à prouver de ce verset que les proches parents du côté du père sont invalides à témoigner. Kroveahem, Minalan, d'où je sais que les proches parents aussi du côté de la mère sont aussi invalides à témoigner. Amalka, le verset a dit, Avot, les parents, très imné, deux fois. Imeno inyan li Kroveahav, or si nous n'en avons pas besoin pour les parents du côté du père, car cela a déjà été dit une fois, Teneo inyan les Kroveahem. Alors on l'utilisera pour les proches parents du côté de la mère. La Gemara nous dit Ashkechan les Chova. Alors nous avons réussi à prouver de ce verset que les proches parents n'ont pas le droit de témoigner pour une culpabilité, comme nous voyons, que les parents ne seront pas tués par les enfants ou les enfants par les parents. Donc c'est une question de culpabilité car on veut leur donner la peine de mort. L'Isrout Minalan, d'où je sais que même pour prouver l'innocence, des proches parents ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre. Amarka, le verset nous dit, yumtu, yumtu, ils seront tués, très imné, deux fois. Imeno inya lechova, si on n'en a pas besoin pour un cas de culpabilité, car ça a déjà été mentionné une première fois, teneo inya lesrout, alors utilisons ce verset pour apprendre que même pour prouver une innocence, les proches parents n'ont pas le droit de témoigner l'un pour l'autre. La Gemara nous dit alors, ashkechan, bedine nefashot, alors nous avons réussi à prouver à propos des questions de peine de mort. Bedine mamonod minan, à propos des questions financières, d'où je sais aussi que des proches parents ne peuvent témoigner l'un pour l'autre ou l'un contre l'autre. Amarka le verset dit, Mishpat echad yelachem, une seule loi vous aurez, de là nous apprend, Mishpat achave lachem, que la loi est égale pour vous, dans tous les cas. Et donc il n'y a pas de différence entre le cas de peine de mort et le cas de peine financière. Amarav, Ravadi, Achi Abba, le frère de mon père, Loyaili, ne pourra pas témoigner pour moi, c'est-à-dire pour son neveu, et ni lui, Ubno, ni son fils, qui est mon cousin, Vechatano, ni son gendre, qui est mon cousin, par alliance. Afani, et de même moi, Loyaili, je ne pourrai pas témoigner pour lui, c'est-à-dire pour mon oncle, Ani, ni moi, Ubni, ni mon fils, c'est-à-dire pour son grand-oncle, Vechatani, et ni mon gendre, pour son grand-oncle par alliance. La Gemara demande vers Amai pour quelle raison mon fils ou mon gendre ne pourront témoigner pour mon oncle. Havel et Shlishi Berishon, ici, c'est une troisième génération qui vient témoigner pour la première génération, car mon oncle, c'est la même génération que mon père, donc c'est la première génération. Moi, je suis seconde génération, mon fils est troisième génération. Donc c'est une troisième génération pour la première. Ve'anan, et nous avons enseigné dans la Mishnah des cas de Sheni Beshenitnan. Le cas de seconde génération pour seconde génération, ça il ne peut pas témoigner. Par exemple, deux cousins. Ou Sheni Berishon. Ou alors la seconde génération pour la première génération. Un neveu pour son oncle ou un fils pour son père. Nan, ça a été enseigné dans la Mishnah. Shlishi Berishon. Par contre, le cas de troisième génération pour la première génération, l'autre nan, ça n'a pas été enseigné dans la Mishnah. Et donc, d'où Rav sait que mon fils ou mon gendre ne peut témoigner pour mon oncle? Alors, la Gemara répond, Mai chatano dektane bematnitin. Que signifie le chatano qui est mentionné dans la Mishnah? Car dans la Mishnah, il est dit que je ne peux témoigner pour mon oncle, ni pour son fils, ni pour son gendre. Et donc, apparemment, le fils ou le gendre, c'est la seconde génération. C'est-à-dire, moi, je suis seconde génération et je ne peux témoigner pour la seconde génération. Mais ici, la Gemara dit non. En fait, Chatano, son gendre qui est mentionné ici, c'est pas le gendre de mon oncle, mais c'est Chatan Bno. C'est le gendre de son fils. Et donc, c'est la troisième génération. Et donc, dans la Mishnah, nous arrivons à prouver qu'on ne peut témoigner pour la troisième génération. Et alors, la Gemara demande, Vélidne, alors si ça avait été ainsi, on avait qu'à enseigner dans la Mishnah. Ben Beno, son petit-fils, pourquoi avons-nous parlé du gendre de son fils, si on veut parler de la troisième génération? La Gemara répond, Milta Agavu Rekamashwan. La Mishnah nous apprend une chose au passage. Des Baal Keishto, qu'un mari est considéré comme sa femme. La Gemara demande Vela de Tane Repria, lorsque Repria a enseigné, Shmone Avot Shen Esrim Verba. Que dans la Mishnah, il est mentionné 8 proches parents, qui sont en fait 24 cas. Pourquoi? Parce que c'est eux, leurs enfants et leurs gendres. Et donc, eux c'est 8, leurs enfants c'est encore 8, et leurs gendres c'est encore 8, ça fait en tout 24. D'après ce que nous voulons nous dire, Hanetlatin Vetarinave, en fait, ils sont 32. Pourquoi 32? Car à part les enfants et les gendres, il y a les petits-enfants. Alors en fait, nous sommes obligés d'expliquer que le gendre qui est mentionné dans la Mishnah, ce n'est pas le gendre de son fils, mais c'est vraiment son gendre. Et à ce moment-là, elle se repose à nouveau la question, si c'est son gendre, c'est la seconde génération. Et pourquoi nous le considérons comme étant le gendre de son fils, comme étant la troisième génération? Keman de Me'al Makaate, étant donné qu'il vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est né de cette personne, Kedor Acher Dame, il est considéré comme étant une autre génération, et donc c'est la troisième génération. Alors la Gemara demande, hier, alors bon, même si on donne cette explication, mais il y a quand même un problème. Havel et Shlishi, Besheni, ce genre, même si on dit qu'il vient de l'extérieur, c'est une autre génération, c'est la troisième génération. Et lui, contre qui il vient témoigner? Contre moi. C'est-à-dire le gendre de mon oncle, qui est la troisième génération par rapport à mon oncle, veut venir témoigner pour moi, qui suis son neveu, qui est donc la deuxième génération de mon oncle. Ça fait le troisième génération pour seconde génération. Et ça, c'est vrai que c'est mentionné à Mishnah, qu'on ne peut témoigner. Mais... Or, Rav lui-même a dit que la troisième génération pour la seconde génération était valide. Ve'Rav Archir Shlishi Besheni. Lui, il rend valide la troisième génération pour la seconde génération. Ce qu'il invalide, c'est la troisième pour la première. Et là, alors, l'Agma nous dit, alors, Rav de Amar Kereb Lazar, Rav, en fait, il pense comme Reb Lazar, détail, quand nous avons enseigné dans une boîte, Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit, Keshem Shachi Abba Loye Idli, de même que le frère de mon père, c'est-à-dire mon oncle, ne pourra pas témoigner pour moi, ou ni lui, Ubno Vechatano, et son fils et son gendre, car Ben Achi Abba, de même le fils du frère à mon père, c'est-à-dire mon cousin, Lo Yaidli ne pourra pas témoigner pour moi, ou Ubno Vechatano, ni lui, ni son fils, et ni son gendre. Et donc, de même que la troisième génération ne peut témoigner pour la seconde génération, à plus forte raison, la troisième génération ne pourra témoigner pour la première génération. La Gemara demande, Vakater avait les Shlishi Beshini. Mais en fait, il se trouve finalement que c'est ici, c'est encore la troisième génération qui témoigne pour la seconde génération, et Rabbi Lazar rend invalide une chose pareille. Verav Archa Shlishi Beshini. Par contre, Rav lui a permis la troisième génération de témoigner pour la seconde génération. Donc, comment pouvons-nous dire que Rav pense comme Rabbi Lazar? La Gemara répond, Rav savar les Kevate Bechada ou pas les Gale Bechada. Rav pense comme Rabbi Lazar sur un point et en discussion avec lui sur un autre point. C'est-à-dire, il est d'accord avec lui que la troisième ne peut témoigner pour la première, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar que la troisième ne peut témoigner contre ou pour la seconde génération. Donc, ma demande, Maïtahama de Rav, quelle est la raison de Rav qui a invalidé la troisième génération pour la première? De Amarka, car le verset dit, Lo yumtu avot albanim. Les parents ne mourront pas par les enfants, ou banim, et les enfants, et donc il y a ici un vav en plus, les rabots d'orher, ça vient inclure une autre génération, c'est-à-dire après les enfants, nous incluons la génération qui suit, c'est-à-dire la troisième génération. Et donc les parents ne pourront pas mourir par la troisième génération, c'est-à-dire la troisième génération ne peut témoigner pour la première. Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar te dit, albanim, il est dit, par les enfants, Amar Rachmana la Torah dit, Psule de Avod, Shade Abanim. L'invalidité des parents est la même pour les enfants. Et de même que les enfants ne peuvent témoigner pour les parents, les petits-enfants ne peuvent témoigner pour les enfants. Et donc la troisième génération ne peut témoigner pour la seconde génération, et à plus forte raison pour la première génération. Amar Rav Nachman, Rav Nachman a dit, Achi Chamoti, le frère de ma belle-mère, Lo Yaidli ne pourra pas témoigner pour moi. Ben Achi Chamoti, le fils du frère de ma belle-mère, Lo Yaidli ne pourra pas témoigner pour moi. Ben Achod Chamoti, le fils de la sœur de ma belle-mère, Lo Yaidli ne pourra pas témoigner pour moi. Et l'Agma nous dit, Vetana Tuna. Et le Tana a déjà enseigné cela. Et il faut savoir que toutes les invalidités mentionnées dans la Mishnah, un père pour son fils, pour son frère, etc., c'est respectif. Et de même qu'un père ne peut témoigner pour son fils, un fils ne peut témoigner pour son père. Et donc, il est mentionné dans la Mishnah, Baal Achoto, le frère de sa sœur ne pourra pas témoigner pour lui. Et donc, de même, et dans la Mishnah, nous avons dit que pas, tous ceux qui sont mentionnés dans la Mishnah, ce n'est pas seulement eux, mais c'est aussi leur fils et leur gendre. Et donc, le gendre du mari de sa sœur ne pourra pas témoigner pour lui. Or, si cela est respectif, alors à ce moment-là, lui ne pourra pas témoigner pour le gendre du mari de sa sœur. Or, cette personne-là s'appelle pour le gendre du mari de sa sœur, le frère de sa belle-mère. Car le gendre du mari de sa sœur, c'est le gendre de sa sœur. Donc sa sœur, c'est la belle-mère. Et lui, c'est le frère de la belle-mère. Donc cette personne-là s'appelle pour ce gendre, le frère de la belle-mère. Et de même, ou Baal Achaot Aviv, nous avons dit que le mari de la sœur de son père ne pourra pas témoigner pour lui. Et de même, le gendre du mari de la sœur de son père ne pourra pas témoigner pour lui. Or, si cela est respectif, lui non plus ne pourra pas témoigner pour le gendre du mari de la sœur à son père. Or, comment cette personne est appelée pour le gendre du mari de la sœur à son père, il est appelé le fils du frère à sa belle-mère. Et de même, le troisième cas, nous avons enseigné dans la Mishnah, ou Baal Achot Imo. Le mari de la sœur à sa mère ne pourra pas témoigner pour lui. Et donc, de même que le mari de la sœur à sa mère ne pourra pas témoigner pour lui, le gendre du mari de la sœur à sa mère ne pourra pas témoigner pour lui. Or, comme cela est respectif, lui ne pourra pas témoigner aussi pour le gendre du mari de la sœur à sa mère. Or, comment lui est appelé pour le gendre du mari de la sœur à sa mère? Le fils de la sœur de la belle-mère. Et comme nous avons enseigné dans la Mishnah, que tous ces cas-là n'ont pas le droit de témoigner. Hen, eux, ou vnem, leurs enfants, vechatanem, et leurs gendres. Amar Ravashi, Ravashi a dit, qui a vinan beoula, lorsque j'étais dans la maison de Oula, Ibaïelan, on s'est posé la question. Achi Chamiv Maou, le frère de son beau-père, qu'en est-il? Est-ce qu'il pourra témoigner pour moi ou pas? Ben Achi Chamiv, le fils du frère à son beau-père, pourra-t-il témoigner ou pas? Maou, qu'en est-il? Ben Achot Chamiv, le fils de la sœur à son beau-père, Maou, qu'en est-il? Pourra-t-il témoigner ou pas? Amalan, alors il nous a dit, Tani toi, on l'a enseigné dans la Mishnah, Achiv, Ve'achi Aviv, Ve'achi Imo, son frère, et le frère de son père, et le frère de sa mère, En uvnehem vechataen, eux, leur fils et leur gendre, ne peuvent pas témoigner. Or, Achiv, son frère, ne peut pas témoigner pour lui, et donc de même, le gendre de son frère ne pourra pas témoigner pour lui. Et donc lui, par rapport au gendre de son frère, il s'appelle le frère de son beau-père. Et de même, nous avons dit dans la Mishnah, Achi Aviv, le frère de son père ne pourra pas témoigner pour lui. Donc le gendre du frère de son père ne pourra pas aussi témoigner pour lui. Et lui ne pourra pas témoigner pour le gendre du frère de son père. Or, lui, comment s'appelle-t-il pour le gendre du frère à son père? Il s'appelle le fils du frère à son beau-père. Et le troisième cas que nous avons mentionné, c'est Achimo, le frère de sa mère. Le frère de sa mère ne pourra pas témoigner pour lui. Et de même que le frère de sa mère ne pourra pas témoigner pour lui, le gendre du frère de sa mère ne pourra pas témoigner pour lui. Et de même, lui ne pourra pas témoigner pour le gendre du frère de sa mère. Or, comment s'appelle-t-il pour le gendre du frère de sa mère? Lui, c'est le fils de la sœur de son beau-père. Rav Ikla le Mizban. Rav s'est retrouvé dans un endroit pour acheter.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Dav Kafret Amudbet, Gvile, des parchemins. Bon, miné, ils lui ont posé la question. Maou Shiadi Shiyaïd Adam Beeshet Chorgo. Qu'en est-il? Est-ce qu'un homme peut témoigner pour la femme du fils de sa femme? Comme nous avons vu dans la Mishnah, que pour le fils de sa femme, il ne peut pas témoigner. Mais pour le fils du fils de sa femme, il pourra témoigner. Maintenant, qu'en est-il pour la femme du fils de sa femme? Est-ce qu'il pourra témoigner pour elle ou pas? En Bessora Amré, à Soura, ils ont dit, Baal Keishto, le mari est comme la femme. Bepumbedita Amré, à Pumbedita, ils ont dit, Isha Kebala, la femme est comme le mari. De Amar Ravuna Amarav, car Ravuna a dit au nom de Rav, Mina Isha Isha Kebala, d'où je sais que la femme est considérée comme le mari, dit-il, car il est écrit dans un verset, Ervat Achi Avicha Lotegale, la nudité du frère de ton père, tu ne dévoileras pas. Elishto lotikrav, vers sa femme, tu ne t'approcheras pas. Doda trahi, c'est ta tante. Ve alors, et pourtant, eshet dodoi, ce n'est pas sa tante, mais c'est seulement la femme de son oncle. Michlal, de là j'apprends, de isha kebala, qu'une femme est considérée comme son mari. Mais de toute façon, que l'on dise que la femme est comme le mari ou que le mari est comme la femme, de toute façon, cela veut dire que de même que pour le chorgo, c'est-à-dire pour le fils de sa femme, il ne pourra pas témoigner, de même, pour la femme du fils de sa femme, il ne pourra pas témoigner. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Nous avons dit, Uba Alimo, et le mari de sa femme, de sa mère, Hu Ubno Vechatano. Lui, son fils et son gendre. C'est-à-dire, il ne pourra pas témoigner pour le mari de sa mère, ni pour le fils du mari de sa mère, ni pour le gendre du mari de sa mère. Alors, la Gemara demande, Bno, le fils du mari de sa mère, Ainoachiv, c'est son frère. Et ça a déjà été mentionné. Amar Birmi, alors Birmi a dit, Lo nitrecha, et là, les achiar. Non, nous en avons besoin pour le frère du frère. C'est-à-dire, que ici nous parlons que le mari de sa mère a eu un enfant d'un premier mariage. Et après cela, il s'est marié avec sa mère. Donc, l'enfant du premier mariage n'est pas son frère, ni par le père, car lui, le mari de sa mère, ce n'est pas son père. Lui, il est né d'une première union de sa mère avec une autre personne. Et ni par la mère, car le premier enfant du mari de sa mère, il n'est pas né de l'union du mari de sa mère maintenant, mais il est né d'une première union du mari de sa mère avec une autre femme. Et donc, en fait, cet enfant qui est né d'une première union du mari de sa mère avec une autre femme n'a aucun rapport avec lui. Et si le mari est le mari de sa mère a maintenant un autre enfant avec sa mère, alors c'est vrai que cet enfant sera son frère par sa mère, et que cet enfant aussi, ce nouvel enfant qui vient de naître, ce sera le frère du fils de mari de sa mère par un première union, par le père, mais lui-même n'a aucun rapport avec le premier enfant du mari de sa mère. Et donc c'est pour cela que ce premier enfant est appelé le frère de son frère. Mais malgré tout, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner, que les enfants du mari de sa mère, bien qu'ils n'ont aucun rapport avec lui et qu'ils sont appelés seulement les frères de son frère, malgré tout, ils ne pourront pas témoigner l'un pour l'autre. Rafriza Archar Be'achyar. Rafriza lui permettait au frère du frère à témoigner. C'est-à-dire au cas que nous venons d'expliquer. Amroulé lui ont dit, Loshmi Alach Adi Rabbi Irmiya, n'as-tu pas entendu l'enseignement de Rabbi Irmiya? Amarle, où il leur a dit, Loshmi Ali, non, j'ai pas entendu. Kilomar, c'est-à-dire, en fait, il voulait pas dire qu'il l'a pas entendu, mais Loshvirali voulait dire, je n'accepte pas cet enseignement, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec cet enseignement. Alors, Agma demande, Yahi, si c'est ainsi, Haïno Achib, alors à ce moment-là, revient à nouveau la question. Nous avons dit dans la Mishnah que le mari de sa mère, lui et son fils, ne peuvent pas témoigner pour lui. Or, le fils du mari de sa mère, c'est son frère. Alors, Agma nous dit, Tane Achiv Mina, avec Tane Achiv Minaim. Nous avons enseigné le cas de son frère par son père, et nous avons réenseigné le cas de son frère par sa mère. Amar Rafriza, Rafriza a dit, Avi Hatan ve Avi Kala, le père d'un jeune marié et le père d'une jeune mariée, Meidin Zealze, peuvent témoigner l'un pour l'autre. C'est-à-dire, les deux parents peuvent témoigner l'un pour l'autre, sans aucun problème, et ne c'est pas parce que leurs enfants se sont mariés ensemble, que eux ont un lien de famille. Velo Damu le Hadade, et ils ne se ressemblent pas, et là, mais seulement, qui Arla le Dana, comme le robinet au tonneau. C'est-à-dire, ils n'ont aucun rapport. Nous continuons, Bezrat Hashem, le chiot de Daf Kafret. Nous sommes Daf Kafret Amoud Bet, deux lignes avant les lignes larges. Amar Rabba Barbachana dit, Mid Adam le Ishto Arusa. Un homme pourra témoigner pour sa fiancée. Et nous parlons ici, bien sûr, de la fiancée de la Torah, c'est-à-dire qu'il lui a donné des kiddushin. Et donc, un homme pourra témoigner sur sa fiancée. Amar Ravina, Ravina a dit, Lo Amran et la Leapukemina. Ce n'a été dit seulement pour si on veut faire sortir quelque chose d'elle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui dit, par exemple, tu me dois de l'argent, et que lui vient témoigner qu'en effet, elle lui doit de l'argent. Avala Yulela, mais s'il vient témoigner pour lui faire gagner de l'argent, l'Omeman, il n'est pas cru, car lui, il a tout intérêt à ce qu'elle ait plus d'argent. Veloi, et ce n'est pas vrai. Loshna la Puke, Veloshna la Yule, il n'y a pas de différence, que ce soit pour lui faire gagner de l'argent ou que ce soit pour lui faire sortir de l'argent, l'Omeman, il n'est pas cru. Maïdatir, car que penses-tu pour me dire qu'il est cru? Kedamar Priya Barami, comme à ce qu'a enseigné Priya Barami, Mishme de Oula au nom de Oula. Ishtoarusa, sur sa femme fiancée, l'Onen, il n'aura pas le statut d'Onen si elle décède, c'est-à-dire le statut d'Onen, ce statut que quelqu'un a lorsqu'il perd un proche parent durant la journée qui suit le décès. Velom et Amela, et si c'est un Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur seulement pour un de ses proches parents, alors lui, il n'aura pas le droit de se rendre impur pour sa fiancée. Vehen i, et de même i, l'Onenet, elle n'aura pas le statut de Onen pour lui, c'est-à-dire s'il décède, velom itamalo, et elle ne se rendra pas impure pour lui, meta, si elle meurt, eno yorsha, il ne l'hérite pas, metu, si lui meurt, govak tuvata, elle pourra se faire payer sa ketuva. Donc nous voyons ici, de cet enseignement, qu'un homme envers sa fiancée, ils n'ont aucun lien de parenté, tant qu'ils ne sont pas marié. Et donc, puisqu'ils n'ont pas lien de parenté, j'aurais pu penser qu'il peut témoigner pour elle. La Gemara explique qu'en fait, non. Hatam, là-bas, à propos de ce que nous avons enseigné du statut de Onen et de la permission de se rendre impur pour un des proches parents, Bisherot ala Rachmana. La Torah a fait dépendre la permission au Kohen de se rendre impur pour un de ses sept proches parents, ou le statut de Onen, avec un lien de chair. Et akatel avsheroi. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un lien de chair entre cet homme et cette femme. Acha, ici, à propos du témoignage, mishu mikru vedaatahu. On pas l'interdit et que deux personnes qui sont proches l'un de l'autre, qui ont les esprits, qui sont proches l'un de l'autre, n'ont pas le droit de témoigner un pour l'autre. Et là, bien que ce n'est que sa fiancée, son esprit est proche d'elle, et c'est pour cela qu'il ne peut pas témoigner pour elle. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Chorgo levado, le fils de sa femme tout seul, c'est-à-dire un homme ne pourra pas témoigner pour le fils de sa femme, mais il pourra témoigner pour le fils de sa femme ou pour le gendre du fils de sa femme. Et de même le contraire, le fils de sa femme ne pourra pas témoigner pour lui, mais le fils de sa femme ou le gendre du fils de sa femme pourra témoigner pour lui. Agman nous dit, Tano Rabbanan, nos sages ont enseigné, Chorgo levado, le fils de sa femme seulement. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Gisso, même son beau-frère, et son beau-frère ici l'intention est, et au mari de la sœur de sa femme. Betania Idar, et nous avons enseigné dans une autre braïta, Gisso levado, son beau-frère seulement, mais pas le fils et le gendre de son beau-frère. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Chorgo, le fils de sa femme. Alors, la Gemara demande une explication des paroles de cette braïta. Maïka Amar, qu'ont-ils dit? Il imachika Amar. Si nous disons que c'est ainsi que la braïta a dit, Chorgo levado, que seulement le fils de sa femme n'a pas le droit de témoigner pour lui, mais le fils du fils de sa femme, ou le gendre du fils de sa femme a le droit de témoigner pour lui, Vouadin le Gisso. Et il en est de même pour son beau-frère, que seulement son beau-frère n'a pas le droit de témoigner pour lui, mais le fils ou le gendre ont le droit. Va'ata Rabbi Yossi le Memar, Rabbi Yossi est venu dire, Gisso levado, que seulement le beau-frère n'aura pas le droit de témoigner pour lui, et seulement le beau-frère, mais pas les enfants ou les gens du beau-frère. Vouadin le Chorgo, il en est de même pour le fils de sa femme, seulement lui ne témoignera pas pour lui, mais pas ses enfants et ses gendres. Et donc, en fait, ces deux braïtot ne viennent pas en discussion l'une contre l'autre, mais une explique l'autre. Alors, matni, et la matnit inektane giso ou ubno vechatano mané. Alors, c'est ainsi, notre Mishnah dans laquelle nous avons enseigné que son beau-frère, c'est-à-dire le mari de la sœur de sa femme, n'aura pas le droit de témoigner pour lui, ni son fils, ni son gendre. Quelle opinion cela suit? Le Rabbi Yehuda, et le Rabbi Yossi, c'est ni l'opinion de Rabbi Yehuda, ni l'opinion de Rabbi Yossi, puisque nous avons dit que les deux braïtot sont d'accord l'une avec l'autre, que le beau-frère et le fils de sa femme, seulement eux n'ont pas le droit de témoigner, mais leur fils et leur gendre ont le droit de témoigner. Or, dans notre Mishnah, nous verrions que le fils et le gendre de son beau-frère n'ont pas le droit de témoigner pour lui. Vela Achikam. Alors, en fait, c'est ainsi qu'il faut dire que la braïta a dit. Chorgo levado, le fils de sa femme, seulement lui n'a pas le droit de témoigner pour lui, mais son fils et son gendre ont le droit de témoigner pour lui. Aval Gisso, mais le beau-frère, ou Ubno Vechatano, n'ont pas le droit de témoigner pour lui, son fils et son gendre. Vehata Rabbi Yossi le Memar, Rabbi Yossi est venu dire, Gisso Levado, que son beau-frère, lui tout seul, n'a pas le droit de témoigner pour lui, mais son fils et son gendre ont le droit. Aval Chorgo, mais le fils de sa femme, ou Ubno Vechatano, l'interdit est sur lui, son fils et son gendre. Alors si c'est ainsi, il se pose une question. Alors c'est ainsi ce qu'enseigne Repria. Shmona Avot. Il existe, on a mentionné à Mishnah, 8 proches parents. Shen, Esrim, Ve'arba. Qu'ils ont fait en tout 24, car il y a les 8 proches parents. Leur fils, donc c'est encore 8 fils, ça fait 16. Et leur gendre, encore 8 gendres, donc ça fait 24. Keman. Cet enseignement suit l'opinion de qui? Loke Rabbi Yossi. Veloke Rabbi Yehuda. C'est ni l'opinion de Rabbi Yossi, ni l'opinion de Rabbi Yehuda. Car dans la Mishnah, nous avons mentionné 8 cas, à part le cas du beau-frère et le cas du fils de sa femme. Or, d'après Rabbi Yehuda, il faut rajouter à ces 8 cas le beau-frère, et d'après Rabbi Yossi, il faut rajouter à ces 8 cas le fils de sa femme. Donc que ce soit Rabbi Yossi ou que ce soit Rabbi Yehuda, il existe 9 cas. Et donc nous ne pouvons pas dire que c'est ça l'explication de des Braïtot. Et là alors, Achikama, c'est ainsi qu'il faut enseigner les Braïtot. Chorgo levado, le fils de sa femme, lui tout seul, n'a pas le droit de témoigner, mais son fils et son gendre ont le droit de témoigner. Aval Gisso, mais son beau-frère, ou Bno Bechatano, l'interdit est sur lui, sur son fils et son gendre. Va'ata Rabbi Yossi le Memar, et ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi vient dire, Gisso levado, que son beau-frère, l'interdit est seulement sur lui, Vekol Shekel Chorgo, et à plus forte raison, le fils de sa femme, que l'interdit n'est que sur le fils de sa femme, et pas sur son fils et son gendre. Et donc, Matnitin et notre Mishnah, Rabbi Yehuda suit l'opinion de Rabbi Yehuda, car dans la Mishnah, nous avons dit que le beau-frère ne peut témoigner, ni lui, ni son fils, ni son gendre. Braïta, et la Braïta, qui dit qu'il n'y a que 8 proches parents, et donc ça ne prend en compte ni le beau-frère, ni le fils de sa femme, Rabbi aussi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi aussi. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Halakha ki Rabbi Yossi, la loi est fixée sur l'opinion, suivant l'opinion de Rabbi Yossi. Maintenant, la Gemara rapporte une anecdote. Haïm matneta, d'Abba Khatim et Ale, très guissé. Il y avait une fois un contrat de cadeau, c'est-à-dire quelqu'un fait cadeau de quelque chose à une autre personne. Et sur ce cadeau, il y avait deux beaux-frères qui avaient signé. Ça va, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a pensé, l'Archoura, le rendre valide. D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, car Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Halakha ki Rabbi Yossi, la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yossi. Or, Rabbi Yosef pensait que la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yossi, c'est le Rabbi Yossi de la Mishnah qui a dit qu'il n'est invalide à témoigner, seulement un proche parent qui peut l'hériter. Or, un beau-frère ne peut pas hériter son beau-frère. Donc, deux beaux-frères sont valides pour témoigner. Et donc, c'est pour ça que sur ce contrat est valide lorsque deux beaux-frères ont signé en tant que témoin. Amarle Abaye, alors Abaye lui a dit, Mimai de Rabbi Yossi de Matnitin de Marcher Begiso, qui nous dit que la loi, que ce que Shmuel a dit, que la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi de la Mishnah qui nous dit, qui permet à deux beaux-frères de signer et de Dilma Rabbi Yossi de Braïta. Peut-être que l'intention de Shmuel était de dire que la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yossi de la Braïta, de Pasil Begiso, qui invalide un beau-frère de témoigner pour un autre beau-frère et donc à plus forte raison de deux beaux-frères de témoigner ensemble. Alors Rabbi Yosef lui a répondu, Lo salgadatar, tu ne peux pas penser dire une chose pareille. D'Amar Shmuel, car Shmuel a dit, c'est quoi la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yosef? Par exemple, Kegon, par exemple, Ana ou Pinchas, moi et Pinchas, qui était le frère de Shmuel, Davinan achi vegisi. Et nous sommes des frères et des beaux-frères. Ils étaient frères, car ils étaient frères, et ils étaient beaux-frères parce que les deux étaient mariés à deux sœurs. Donc nous voyons ici que Shmuel a dit que la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yossi. Et dans quel cas des beaux-frères sont invalides à témoigner? Lorsqu'ils sont aussi frères. Aval gisse de alma, mais lorsque ce sont seulement des beaux-frères, comme n'importe quel beau-frère, chapir d'amé, cela est faisable et ils peuvent témoigner. L'agma nous dit, Védilma, non, peut-être que Gon Anna ou Pinchas, peut-être que Shmuel a voulu donner l'exemple de moi et Pinchas, Mishum de Gisso, il a voulu ici donner l'exemple du beau-frère, mais il n'a pas voulu donner l'exemple du frère. Kamar, il a dit, c'est-à-dire que l'intention était que l'invalidité n'était pas à cause qu'ils étaient frères, mais à cause du fait qu'ils étaient beaux-frères. Amarle, alors il lui a dit, Rabbi Yosef, à celui qui a amené le contrat, en effet, il y a un problème. Alors, Zil Knaye Kanye Bede Messira, va acquérir ce champ avec les témoins que l'on t'a donné ce contrat, qui est Reb Lazar, suivant l'opinion de Reb Lazar. C'est-à-dire, il y a une grande discussion dans tout le chasse entre Reb Lazar et Reb Meir. Est-ce que Ede Messira Karte ou Ede Khatima Karte? Est-ce que c'est les témoins qui voient la chose, qui font la chose, ou est-ce que c'est les témoins qui signent, qui font la chose? Et quels sont les témoins les plus importants? D'après Rabbi Lazar, ce sont les témoins qui voient. D'après Rabbi Meir, ce sont les témoins qui signent. Et donc, en fait, d'après Rabbi Lazar, ce sont les témoins qui voient. Et en fait, en général, on n'a même pas besoin que des témoins signent sur un contrat. Car du fait que deux témoins voient que j'ai donné un contrat d'achat ou un contrat de cadeau à une autre personne, le cadeau est fait. Ou l'achat est fait. Donc, puisque d'après Rabbi Lazar, on n'a même pas besoin que les deux témoins signent sur le contrat, alors Rabbi Yosef lui a dit, amène les deux témoins qui ont vu que celui qui t'a donné ce cadeau, ce champ par exemple, il te l'a donné en main propre. Et donc, à ce moment-là, tu auras une preuve que tu as acquéri le champ. Alors là-dessus, Abba lui a posé une question. Ve'am, Rabbi Abba, pourtant Rabbi Abba a dit, Modé Rabbi Lazar bimzuyaf mitocho. Rabbi Lazar est d'accord lorsque le contrat est fait avec des témoins qui sont invalides, chez Pasoul, que le contrat en lui-même est invalide. C'est-à-dire que, et c'est vrai que d'après Rabbi Lazar, on n'a même pas besoin que des témoins signent sur le contrat. Mais si déjà ils ont signé, il faut que ces témoins soient valides. Et si ces témoins ne sont pas valides, alors tout le contrat est annulé. Et donc maintenant, même si tu amènes des preuves que celui qui t'a donné ce cadeau te l'a donné en main propre et tu amènes deux témoins qui ont vu ce fait qui t'a donné le contrat, de toute façon le contrat en lui-même n'est pas valide et donc tu n'as pas pu acquérir le champ par l'intermédiaire de ce contrat. Et donc maintenant il n'est pas à toi. Amar, et alors Rabbi Yosef lui a dit à celui qui est venu avec ce contrat, Zil va lo shafkeli de odvinelar, on ne me laisse pas te le donner, je ne peux rien faire car ce contrat n'est pas valide. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, vechole, etc. Et Rabbi Yehuda nous dit que même si sa fille est décédée, mais qu'il avait des enfants de cette fille, c'est-à-dire son gendre avait des enfants de cette fille, alors son gendre est encore considéré comme étant un proche parent. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Tavla, Amar Rabbi Bruna. Rabbi Tanchum a dit au nom de Rabbi Tavla, au nom de Rabbi Bruna. Amar Rav au nom de Rav, halakha ki Rabbi Yehuda, la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yehuda. Rava Amar Rav Nachman, Rava a dit au nom de Rav Nachman, en halakha ki Rabbi Yehuda, la loi n'est pas fixée suivant l'opinion de Rabbi Yehuda. Vechen Amar Rav Abba Chana, Amar Rabbi Yochanan, de même Rav Abba Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, en halakha ki Rabbi Yehuda, la loi n'est pas fixée suivant l'opinion de Rabbi Yehuda. Ika de matne la leha de Rav Abba Chana, aha, il y en a qui enseignent cet enseignement de Rav Abba Chana sur ce cas-là. Et zu darash Rabbi Yossi Aglili, ceci a enseigné Rabbi Yossi Aglili. Ubata el Kohanim, el Leviim, vers la Shofet, asher yeh bayamim ha'em. Il est écrit dans un verset, et tu viendras vers les prêtres, les Kohanim, Leviim, et vers le juge qui se tiendra à cette époque-là. Vechit aleal datra shadam oleh et el Shofet shelo haya bayamav. Peux-tu penser qu'un homme ira chez un juge qui ne vit pas dans son époque? Alors qu'est-ce que ça veut dire le juge de cette époque-là? Et là, Zeshaya Karo Venitrachek, ça fait allusion au juge qui était un proche parent et qui s'est éloigné, qu'il est valide à juger. Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Barchana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Halakha ki Rabbi Yossi Aglili, la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Kafret. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Kaftet. Nous sommes Daf Kafret, Amud Bet, dernière ligne. Bnei Chamua de Mar Ugva. Les enfants du beau-père de Mar Ugva, c'est-à-dire ses beaux-frères, mais maintenant ce n'était plus ses beaux-frères, car la femme de Mar Ugva est décédée.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.